poursuivons la rediffusion d'émissions qui ont marqué l'antenne de Fréquence Mistral. C'est la deuxième partie de l'émission de Marco Cacavo consacrée aux attentats de janvier 2015. Samedi 24 janvier, nous évoquions la liberté d'expression et la liberté de penser.
Bienvenue à un tract. Je donne la parole à Madame Coffey, représentante de Amnesty International, et notamment sur la question droit de l'homme et monde musulman, parce que c'est...
Je préfère la formulation, effectivement, à la première formulation où vous parliez des droits de l'homme et du monde arabe, parce qu'il faut bien faire attention, arabe et musulman ne sont pas des termes qui se superposent, pas du tout. On peut être arabe, musulman et algérien, oui. On peut être arabe, juif et palestinien, ou tout aussi bien arabe, juif et israélien. On peut être arabe, musulman et français, on peut être arabe, juif et français, on peut être chrétien également, on peut être également, comme on dit, outre-Atlantique, caucasien, c'est-à-dire de type européen, français et musulman. Toutes ces possibilités existent. Et puis on peut aussi, parce que la liberté, c'est être au plus proche de sa vérité intérieure, être de tradition chrétienne et ne pas être croyant, être de tradition musulmane et ne pas avoir la religion musulmane, et on peut aussi, et là on touche de près les droits de l'homme, parce que c'est beaucoup plus difficile, être yéménite, saoudien, être de tradition musulmane, et être en son fort intérieur un libre penseur. Et cela, c'est beaucoup plus difficile pour faire respecter ses droits. Alors, pour parler donc des droits humains et du monde de l'islam, il faut commencer avec la création de l'ONU. Lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de ces horreurs qui ont occupé le monde pendant des années, les États se sont réunis pour mettre en place l'ONU. Et ils ont immédiatement ajouté, adossé à l'ONU, une sorte de colonne vertébrale morale qui était la Déclaration universelle des droits humains. C'était en 1948. Les nations se sont élevées pour déclarer ensemble que les hommes sont libres et égaux en droit, et elles ont ajouté libres, quel que soit leur sexe, leur religion, leur origine, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté très marquée d'universalité des droits humains. Ça, c'était en 1948, c'était une déclaration. Et puis, la diplomatie a fait son travail dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire qu'elles ont approfondi cette déclaration pour mettre en place des pactes internationaux, des traités qui ont force de loi et qui obligeaient les nations dans leurs relations diplomatiques. Et puis en 1994, au Caire, il y a eu une déclaration qui s'appelle la déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, et qui, une nouvelle fois, des pays de l'islam s'est levé pour dire « les hommes sont libres et la liberté des hommes a quelque chose à voir avec la paix ». Mais cette fois-ci, ils ont dit « tous les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration sont soumis à la charia islamique ». C'est la grande différence entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration du Caire. Cette Déclaration du Caire, c'est une déclaration, ce n'est pas un traité. 57 nations ont signé la Déclaration du Caire. Mais c'est une déclaration, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre symbolique. Malgré tout, cette déclaration... s'immiscie dans le discours diplomatique régulièrement, et régulièrement revient sur la table, c'est-à-dire l'obligation de soumettre les droits humains à la charia islamique. Et puis, comme quand on a des différences dans le monde, mieux vaut avoir jeté des ponts sur ces différences, eh bien, pendant à peu près une quinzaine d'années, il y a des pays islamiques qui ont travaillé à mettre en place quelque chose qui soit en accord avec les droits internationaux, avec les traités internationaux. Et ils ont invité à ce genre, à leur réunion, des observateurs de l'ONU. Et ils ont mis en place la charte arabe, cette fois-ci, des droits de l'homme. Alors, cette charte arabe des droits de l'homme, elle est plus en accord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est plus intégrée dans les lois et les traités internationaux. Malgré tout, elle n'est pas exactement, elle ne correspond pas exactement. Il y a quand même de grands domaines qui sont exclus. Par exemple, la charte arabe des droits de l'homme n'est pas claire sur l'interdiction de la peine de mort envers les mineurs. Elle n'est pas claire du tout sur ce qui concerne le droit des minorités, etc. Voilà, ça c'est les deux grandes choses. Et tout à fait en dehors de ce dialogue diplomatique, eh bien, il y a des groupes autoproclamés de l'islam qui, de façon tout à fait arbitraire, interprètent l'islam et de façon tout à fait arbitraire imposent des lois. Et ce sont ces groupes autoproclamés, ce sont par exemple Boko Haram, c'est Daesh et c'est les talibans. Voilà. Alors, dans ces groupes autoproclamés, les premiers à avoir des problèmes avec, pour lesquels les droits de l'homme ne sont pas respectés, eh bien, ce sont les femmes, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les minorités. Voilà, ça c'est...
Merci. Je voulais poser une question à Boustany Rafat. Est-ce qu'on peut, d'après vous, concilier la charia et la déclaration des droits de l'homme ?
Ah, bien sûr, il n'y a aucun problème. La difficulté, si vous voulez, comme dans tout, c'est de savoir si ce qu'on pense est réellement bien interprété ou pas. C'est un problème. Nous avons un problème d'interprétation. Je parle en tant que musulman. Les États et même les groupes, comme vous dites, ils veulent se prévaloir de l'islam alors que ça n'a rien à voir. Leur application de l'islam est strictement contraire à ce que veut l'islam. C'est un problème d'interprétation. Lorsqu'on reprend les textes, même coraniques, pas seulement de la sunna, c'est-à-dire la vie du prophète, les gens qui veulent se prévaloir de l'islam en prennent une interprétation au premier degré et ils en font ce qui s'est passé, par exemple, le 7 janvier. C'est ça la difficulté. Et malheureusement, il y a un travail de fond pour lequel nous sommes responsables, mais on ne peut pas être responsable de tout. C'est-à-dire qu'il faut, dès l'enfance, commencer à apprendre à ses enfants quels sont les vrais préceptes, comment on interprète les choses. Il ne s'agit pas de cliquer sur Internet et de voir un avis d'un fou furieux en islam et appliquer ça. Tout le problème est là. Mais l'application de la charia est tout à fait compatible avec une démocratie même occidentale.
D'accord. Donc, l'application stricte d'une fausse charia à ce point-là.
C'est une mauvaise interprétation.
Mauvaise interprétation. Donc, ça justifie aussi des actes qui sont contraires à la création de l'homme. Parce que vous, madame Isabelle, vous pouvez citer des cas où, dans des pays arabes actuellement, il y a des journalistes qui sont emprisonnés ou sont condamnés pour...
Absolument, régulièrement, des journalistes ou des personnes qui font usage de leur liberté d'opinion et d'expression. Parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit non seulement qu'on a le droit d'être libre de penser ce que l'on veut, mais également qu'on a le droit de rechercher et de faire connaître par tous les moyens son opinion à l'extérieur. Ça, c'est véritablement la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est corroborée par un certain nombre de pactes et de lois internationales. Alors, par exemple, en ce moment, il y a un cas qui est très douloureux. Véritablement, au lendemain de ce qui s'est passé en France, eh bien, il y a un jeune qui a été en Arabie Saoudite, qui s'appelle Raif Badawi, qui était un blogueur. Il a fait un blog « Libérons les libéraux ». et il a été condamné à recevoir 1000 coups de fouet à raison de 50 hebdomadaires. Il a reçu les 50 premiers coups de fouet. Cette semaine, il ne le recevra pas parce qu'il est hospitalisé. Et il a fort à parier qu'avant d'avoir reçu ses 1000 coups de fouet, il sera mort. Il y a actuellement des pétitions qui circulent et c'est aussi de la liberté d'expression que d'aller signer ce genre de choses. Alors pourquoi c'est interdit ? C'est interdit par le pacte international politique et civil, qui est un grand pacte international signé par à peu près tous les États du monde, dont l'Arabie Saoudite. Il est interdit d'infliger des peines qui soient dégradantes et humiliantes. Et il est interdit également de torturer. Or, c'est proprement de la torture. Voilà, ça c'est un cas douloureux actuellement. Et puis très souvent, à Amnesty International, nous sommes amenés à défendre le droit des femmes dans les pays de l'islam. Savez-vous par exemple qu'en Arabie Saoudite, eh bien, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Alors je ne sais pas si c'est très en rapport avec l'islam, mais c'est interprété comme ça et les femmes n'ont pas le droit de conduire. En Iran, des femes se sont données pour mission de faire signer de recueillir un millier de signatures pour obtenir l'égalité en droit des hommes et des femmes. Eh bien, elles ont été arrêtées. Alors, elles n'ont pas été arrêtées au motif qu'elles ont fait signer cette déclaration, parce que c'est contraire aux droits internationaux. Mais on les a convaincues d'avoir été violentes et d'avoir eu des vouloir attenter à la sécurité de l'État, par exemple. Elles ont été emprisonnées. Et puis, par exemple, à Manosque, nous avons adopté dans notre groupe un jeune homme qui, à l'âge de 7 ans, a été condamné à mort au Nigeria pour avoir volé des vidéos. Alors déjà une fois, nous sommes plusieurs associations à nous battre pour ce jeune homme, déjà une fois, il a été la peine de mort a été remise. Mais il la risque encore en permanence. C'est Moses Akatugba. Et donc à Manosque, on se bat particulièrement pour lui. Ça, c'est au Nigeria. Et puis, en Mauritanie, il y a des personnes qui sont actuellement emprisonnées pour avoir défendu, attention, pour avoir défendu l'interdiction de l'esclave, pour avoir défendu les esclaves. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves dans ces pays et que les défenseurs des droits humains qui défendent ces esclaves sont emprisonnés. Voilà, c'est ce genre de choses que l'on défend.
Ok, merci. Rafat, pourquoi, d'après toi, il y a une mauvaise interprétation du Coran ? Quels sont les enjeux qui se cachent derrière une interprétation mauvaise ?
Évidemment, alors, pour être, entre guillemets, sympathique avec les gens qui pratiquent la mauvaise interprétation, on peut dire, tout d'abord, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et ensuite, pour aller dans votre sens en disant qu'est-ce qui se cache, il se pourrait très bien qu'ils savent très bien, mais qu'ils prennent d'autres sentiers pour être un petit peu terre à terre. Et en fonction de leur intérêt politique, le faire. Il y a deux vraiment situations. Nous, là je parle au point de vue local, voire même dans les pays occidentaux, ce que nous cherchons à faire, c'est d'éveiller les consciences des gens à bien chercher là où il faut. Quand vous voulez vraiment chercher quelque chose, vous le cherchez là où il faut. Il ne faut pas le chercher ailleurs. L'islam a des lois. Il a la première loi, c'est le Coran. La deuxième, c'est la Sunna, c'est la vie du prophète. C'est là où il faut le faire. Mais il faut le faire en bonne conscience, pas au sens premier. Les gens qui ont lu Charlie Hebdo, ils l'ont interprété au sens premier. Et c'est ça qui est difficile à faire. Parce qu'il y a toujours une part, je reviens à ce que tu disais, une part de subjectivité qu'on ne peut pas occulter. C'est ça la difficulté de la chose.
Donc, d'après vous, on ne peut pas parler de choc de civilisation. Ça, c'est un slogan que les médias nous répètent parfois.
Absolument. Absolument.
Et sur ça, exactement sur le choc de civilisation, je voudrais avoir l'avis de Jamel Nasser, philosophe. Est-ce qu'on peut parler de choc de civilisation ou sinon, quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette formule ?
Oui, Marco, si tu permets, je voudrais commencer mon discours par cette citation de Beaumarchais, hein, « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Donc je crois que cette citation est toujours actuelle. Et pour venir, avant de partir sur vraiment le noyau de la discussion sur le choc des religions, je voudrais simplement revenir par rapport à ce qui a été dit. Je crois que les journalistes de Charlie Hebdo sont responsables. Et je crois qu'on n'a pas besoin de le démontrer. D'autre part, il y a effectivement... Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Rafat, je crois, à un moment donné, il faut poser les limites de l'insulte, etc. Mais je crois que par rapport à si vous permettez, par rapport à votre voisin, vous avez effectivement exploité cet exemple. Eh bien, il y a un moment donné, effectivement, la liberté d'expression, elle est encadrée par la loi. Elle est encadrée par le législateur. Vous avez des limites. Les limites, quelles sont-elles? Eh bien, c'est la diffamation, c'est l'insulte, c'est l'appel à la haine, à l'antisémitisme, etc. Donc, il y a une liberté d'expression qui est valable à tout à chacun. Mais à partir du moment où les limites sont dépassées, eh bien, vous avez une condamnation. Dans le cas de Charlie Hebdo, effectivement, une partie de la communauté musulmane de France a intenté un procès à Charlie Hebdo, hein, dans les années 2005 ou 2006. Le juge, donc il y a eu un jugement au niveau du tribunal, et le juge a statué effectivement que Charlie Hebdo n'a pas effectivement à être tenu responsable au sens où ce qu'il fait, c'est-à-dire le dessin de la caricature, qui est une véritable tradition française, s'inscrit dans l'intérêt du débat général de la démocratie. Donc voilà, donc je crois qu'on n'a pas besoin à se poser la question, est-ce que ce journal satirique a lieu d'être? Ou doit-il être interdit? Je reviens simplement, avant de repartir sur autre chose, sur justement le principe de la laïcité. C'est un principe fondateur de l'État républicain. Et je crois qu'on n'a pas assez, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur Bellaval, je crois, pardonnez-moi si j'écorche votre nom, hein, je suis nouveau ici. Je crois que le concept de laïcité est un concept fondateur. C'est le ciment du modèle républicain. Alors bien sûr, on peut avoir peut-être le sentiment de pas être assez solidaire, pas assez responsable. Mais je crois que le concept de laïcité nous permet de vivre ensemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos appartenances religieuses, politique, etc. Autrement dit, le législateur, dans la période de 1905, a séparé le politique du religieux. Ça n'a pas été facile, hein, il y a eu de nombreux débats, assez houleux, etc. Mais cette distance du religieux permet justement le vivre ensemble, dans un espace public. Et c'est-à-dire que l'expression religieuse, eh bien, elle est autorisée, elle est même garantie par l'État. L'État assure l'expression religieuse de n'importe quel culte, en France, mais en même temps, il y a une certaine neutralité, une certaine distance, un certain équilibre. Il n'y a pas de préférence à l'égard d'un culte au profit d'un autre. Donc ce qui permet à l'État de symboliser, parce que l'État c'est aussi des symboles, ce qui permet à l'État français, à l'État républicain de symboliser et d'être aussi une sorte de modèle de rencontre de tous les citoyens. C'est-à-dire sur l'espace privé et l'espace public. Donc l'espace privé, je peux effectivement exprimer une appartenance religieuse ou idéologique. Mais à partir du moment où je sors de cet espace, j'entre dans l'espace public qui, par définition, appartient à tout le monde et à personne. Donc ce principe de laïcité, c'est un principe unificateur. Il faut vraiment le défendre, il faut le rappeler. Bien, si vous permettez maintenant, je vais effectivement plus précisément traiter de la question que vous m'avez posée, Marco. S'agit-il d'un choc des religions? Est-ce qu'on peut véritablement parler d'un choc des religions par rapport à ce qui s'est passé? Par rapport aux dramatiques événements qui se sont déroulés en direct, comme vous l'avez dit, hein, et effectivement là c'est aussi une autre dimension de la télé-réalité, hein, c'est-à-dire que là on a en pleine figure la réalité, effectivement un massacre d'êtres humains, c'est-à-dire de semblables. Donc effectivement il y a quelque chose aussi pour la presse de novateur. Je crois qu'aussi il y a une date ici à retenir, hein. Là il y a une sorte de voyeurisme et on est sidéré par rapport à ce qui s'est passé. Alors s'agit-il, parce que ce qui m'a un peu embêté dans le début du débat, c'est qu'on essayait de faire entendre qu'il y avait plus ou moins une responsabilité, que voilà. Je suis désolé, ce sont des criminels, ce sont des terroristes, et il n'y a rien de religieux dans ce qu'ils ont fait. Je crois qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a rien de religieux dans ces criminels. Mais simplement, et c'est l'un des problèmes aujourd'hui hein, qu'on rencontre avec notamment l'islam, mais auparavant ce fut d'autres religions, le problème c'est qu'on va utiliser, exploiter, instrumentaliser la religion à des fins politiques ou idéologiques. Et je crois que le véritable problème, il est là. Ce n'est pas une expression religieuse. La grande majorité de la communauté musulmane est pacifique. Elle ne demande qu'à vivre en paix avec ses voisins et vivre sa foi. Je crois que vous serez tout à fait d'accord avec moi. Mais malheureusement, ce qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'il faut revenir aussi au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il faut avoir une distance un peu, une sorte de perspective historique, et voir que ce qui se passe au Moyen-Orient a des échos, ou du moins des conséquences directes dans notre territoire, dans ces territoires perdus de la République. C'est-à-dire que ces jeunes de banlieue, hein, ces jeunes qui ont été certes scolarisés, eh bien à un moment donné sortent du système scolaire, sont dans la rue, sont récupérés par le grand banditisme, font des passages en prison où, paradoxalement, dans ces lieux de non-droit et de d'idéologie, ils sont carrément endoctrinés, c'est-à-dire qu'on refait leur logiciel. Et c'est là qu'on va justement exploiter ces individus, ces enfants de la République. C'est le problème aussi. C'est aussi un drame aussi des valeurs républicaines. Ce sont des Français qui ont fait ce crime abominable. Et c'est ce qui nous, entre guillemets, nous chagrine. Hein. Ce ne sont pas des personnes de l'extérieur. Ce sont des Français qui ont fait ce crime abominable à côté de nous, etc. Mais justement, ce qui se passe au Moyen-Orient va plus ou moins aller chercher une sorte de caisse de résonance dans ces territoires perdus de la République. Et je crois, pour venir à votre travail, à votre sacerdoce, il faut aussi que les représentants religieux, et notamment de la communauté musulmane, doivent être très vigilants pour justement éviter qu'une propagation d'une idéologie qui se drape de la religion puisse endoctriner des jeunes qui sont à la dérive. Et ça, c'est les enjeux aujourd'hui de cette communauté. À un moment donné, il faut qu'elle fasse son travail critique et autocritique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'accepter le jeune parce qu'il vient à la mosquée ou qu'il vient à l'église, mais ici, il faut aussi également vérifier ou du moins veiller à ce qui ne tombe pas dans une idéologie mortifère. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Et il y a en ce moment au Moyen-Orient, non pas un conflit religieux, mais un conflit de leadership entre deux sphères religieuses, à l'intérieur du monde musulman. C'est-à-dire que le monde musulman, à plus de 90%, il est sunnite. Une partie, environ 10%, est chiite. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudrait revenir dans les années 1900, peut-être même avant, à partir de la chute effectivement de l'Empire ottoman, vous avez effectivement une expression religieuse qui va se libérer. Hein. La tutelle ottomane s'éteint et là effectivement les nationalismes se réveillent, les communautés religieuses demandent à s'exprimer parce qu'il y a le modèle occidental qui est là et on veut effectivement retrouver un peu plus de puissance et de symboles très forts. Et ce qui se passe actuellement, vous avez non pas un choc des religions, mais un choc politique, idéologique entre le monde des pays du Golfe et effectivement le monde persan, le monde iranien, pour savoir qui aura le leadership dans cette région. Et Daesh, effectivement, est une sorte de pion hein, qui bouge entre l'Iran d'un côté avec le problème syrien et effectivement le problème saoudien qui essaie de récupérer ce leadership des lieux saints de l'islam. Donc la question elle est là, c'est-à-dire comment je vais pouvoir assurer ce privilège de symbole, de force théologique. Il n'y a rien de religieux. À un moment donné, on sort de l'expression religieuse pour être dans une expression politique et idéologique.
Et dans ce contexte, quel est, Jamel, d'après toi, le rôle de l'Europe ?
Je crois que c'est une bonne question. Quel est le rôle de l'Europe ? Je crois que l'Europe se réveille. Effectivement, on le voit, l'Europe ne peut pas plus ou moins fermer ses frontières ou laisser une sorte de sas intérieur. Je crois que l'Europe, il faut aussi qu'elle soit un modèle de tolérance, de vie, hein, comme c'est le cas, mais c'est aussi, elle a aussi besoin d'avoir une fonction à l'extérieur, effectivement, de donner les moyens à ses populations, et ben, de se libérer de la tutelle, politique, des dictatures, mais également de donner aussi les moyens aux individus de se libérer, d'être autonomes. Et ce que nous renseigne par exemple cette période des printemps arabes est significative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces populations n'en peuvent plus de ces dictatures, n'en peuvent plus de ces conservatismes religieux. Et je suis désolé, ces populations ont également Internet, ont également des paraboles, ont une image de l'Occident, ont une image des libertés et du respect de l'individu. Donc on ne peut pas à la fois leur proposer ces images et en même temps leur refuser les moyens d'accès à ces espaces de liberté. Donc je crois, pour venir plus précisément à votre question, je crois que l'Europe a aussi une fonction déterminante par rapport à ce qui se passe.
Merci Jamel. Merci Camille pour la petite pause de musique.
On écoute tout de suite Vincent Perani et Émile Parisien, Song of Medina.
on va vers la partie finale de ces débats et je voulais terminer avec une question ouverte, c'est-à-dire une question que je vais poser à tout le monde, à tous nos invités. Moi, j'étais très choqué par la lecture d'un article du Monde qu'il disait, il interviewait un jeune français, j'imagine, qui était parti en Syrie faire les djihad. Donc, il posait une question facile, c'est-à-dire, pourquoi t'es parti? Il disait, il répondait, si je me souviens bien, que comme en France, il n'avait pas de valeurs, il savait même pourquoi il vivait, il n'avait pas de futur, il n'avait pas d'avenir, au moins, en Syrie ou ailleurs, dans les pays où malheureusement il y a des guerres, il pouvait faire quelque chose pour lui, il pouvait remplir un peu une vie vide de valeurs. Et moi, je crains que ce sentiment de ces garçons-là, ça, on peut l'élargir à une petite partie, heureusement, mais quand même elle est importante, des hommes et des femmes issus de la deuxième et troisième génération en France. C'est-à-dire que peut-être ils se retrouvent à être une génération sans valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Boustany?
C'est tout à fait ça, malheureusement. Alors après, il faudra revenir aux sources. Pourquoi ce jeune qui a été persuadé par quelqu'un certainement qui a dû le lui dire, ici tu n'es rien, là-bas tu seras quelqu'un. Pourquoi ici il n'était rien? Faut partir de là. Parce que si ce jeune avait premièrement une bonne éducation, deuxièmement un emploi, troisièmement de bons critères d'intégration, il ne serait certainement pas allé. Donc c'est tout ça qu'il faut expliquer. Ce problème est un problème multifactoriel. Quand bien même il aurait eu un emploi ou qu'il serait intégré, s'il avait une mauvaise éducation, il serait parti quand même. S'il avait une bonne éducation, et je pense que c'est ça la clé de la solution, on peut être pauvre, pas d'avoir d'emploi, être mal intégré, mais s'il y a une bonne éducation, religieuse ou autre, on va pas faire ça. On le fera pas. Donc, il y a des cases qui manquent dans sa tête, et ce n'est pas forcément, je réponds à votre question, madame, de la liberté, l'apprentissage de la liberté. En France, on est libre. Ils sont libres, ces gens-là. Pourquoi ils font ça? C'est pas parce qu'ils manquent de liberté en France qu'ils vont faire ça là-bas. C'est pas du tout ça. La notion de liberté, ils l'ont en France. Ils manquent de repères. Alors, on peut manquer de repères idéologiques, sentimental à la limite, de repères matériels, de repères philosophiques, de repères religieux, mais lorsqu'on part de sa famille avec une bonne éducation, on ne va pas faire ça. Ça, c'est mon opinion.
Donc vous pensez que ça va remplir un peu le vide dans le cœur des gens aujourd'hui? Donc les mauvais conseillers religieux,
oui,
ils vont s'enraciner dans un vide de valeurs.
Exactement, c'est exactement ça.
Merci. Et moi, je reviens vers toi, Jamel. C'est-à-dire que ça m'étonne qu'on puisse partir pour faire de sa vie une œuvre d'art, comme disait quelqu'un, même si c'est une très mauvaise œuvre d'art. Mais la chose étonnante, c'est qu'on part au nom de Dieu, c'est-à-dire au nom d'une religion. Ça fait nous revenir en arrière de 1000 ans, quand même. Comment on peut expliquer à nos jours?
Oui, je crois que tu as tout à fait raison, Marco. Il y a quelque chose de paradoxal, hein. Laisser sa vie, laisser ses amis et aller effectivement dans un autre pays qu'on connaît pas. Et je crois que là, cela relève effectivement du mal-être mental, comme vous avez dit tout à l'heure, des jeunes esprits qui sont en manque de repères ou paradoxalement qui peuvent parfois être très bien éduqués ou très bien instruits, avec des diplômes, etc., paradoxalement, sont saisis par cette émotion fraternelle. Parce que les réseaux sociaux, hein, les boîtes à djihad fonctionnent comme les boîtes de marketing, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la compassion, sur le sentiment, sur l'intérêt d'aller défendre ses frères musulmans, entre guillemets, qui sont massacrés, etc., etc. Donc ces jeunes, une grande majorité sont des jeunes, se sentent effectivement comme dans une sorte de devoir de solidarité à faire le djihad. Mais paradoxalement, il faudrait dire à ces jeunes que bien le djihad, il est d'abord intérieur. Et je crois que le Coran impose le djihad intérieur, c'est-à-dire l'exercice de la rationalité sur soi-même, avant effectivement de partir dans un djihad qui est totalement, à mon avis, je le répète, je suis désolé, il n'y a rien de religieux derrière, ce sont des ambitions politiques territoriales. Voilà, il n'y a rien d'autre. Alors, ceci étant dit, je crois que nous avons une responsabilité en tant que pédagogue, en tant qu'adulte, en tant que parent, de décrypter ou de montrer à ces jeunes, de leur dire qu'effectivement, attention, attention, on peut effectivement agir pour changer les choses, mais d'une autre manière, sans pour autant prendre les armes. Et l'État républicain vous permet démocratiquement de faire que le monde soit meilleur.
Merci Jamel. Monsieur Malabab, on a vu que la djihad pour recruter des gens, c'est-à-dire utilise pas mal les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, les moyens de communication. Il y a aussi une sorte de série télévisée avec les journalistes qui étaient emprisonnés, qui apparemment maintenant, il dit que tout va bien à Mossoul, tout va bien dans l'État islamique. D'après vous, quel est le rôle des médias dans cette djihad 2.0, je dirais, une djihad qui se passe essentiellement sur Internet? Quel est le rôle des médias?
Le rôle des médias, il est compliqué parce que c'est sur une autre planète. On est sur la planète Internet. Donc ça dépasse largement le travail des médias. Quand un jeune de banlieue en France s'informe sur Internet, il est persuadé d'avoir la vérité, ce qui est faux. Un journaliste vérifie son information, il la commente, il l'analyse, certes, il va donner un brin de subjectivité à son information, mais elle est correcte, son information. Je voudrais dire, moi, Jamel parlait tout à l'heure des gens, où c'est Rafat Boustany qui le disait, des gens qui peuvent être utiles. On peut être utile dans notre société avec autre chose qu'une Kalachnikov. En France, on peut aller au Resto du Cœur et donner de son temps pour la population, pour les amis qui souffrent, par exemple. On n'a pas besoin d'aller en Syrie crier Allahu Akbar en tirant des pruneaux sur quelqu'un. Enfin, et la même personne d'ailleurs qui répond la même chose avec les mêmes pruneaux. Hein. Donc on met tout le monde au même point d'égalité. Non, on peut être utile, on peut faire œuvre de solidarité, je l'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, on est confronté à une situation où effectivement les jeunes Français peuvent se reconnaître dans un idéal, qui est un idéal marqué par le temps. Enfin, je veux dire, les guerres millénaires dont faisait référence Jamel tout à l'heure. Mais c'est pour moi, c'est quelque chose ça fait partie de l'histoire. Il ne faut pas l'occulter, bien sûr, mais c'est une histoire révolue. À l'heure actuelle, on devrait se préoccuper de la situation politique en Palestine, effectivement, où il y a deux blocs qui s'affrontent, qui sont des blocs politique. Je ne pense pas que ce soit un conflit religieux, là, la Palestine. Je n'ai jamais pensé. Il y a deux influences et en plus de ça, c'est la Terre Sainte. Donc, vous imaginez toutes les trois religions monothéistes qui se battent pour 3 km². Enfin bon, là, on n'a pas trouvé la solution. Elle est politique, elle est humaine, elle est financière, elle est sociale. Elle n'est pas religieuse, la solution. Enfin, selon moi. Après, qu'on puisse utiliser la religion pour dresser les gens les uns contre les autres, en France, on a le rempart de la laïcité. Bon sang, on a une loi qui... Ça a été difficile en 1905 pour l'Église catholique. Ça a été difficile de comprendre que on est dans une société où on a perdu un petit peu de son influence, mais enfin, on va tous vivre ensemble. Et puis après, notre société a intégré, au sens propre du terme, des populations notamment musulmanes, mais bouddhistes aussi. Et ça se passe très bien. Ce terme de laïcité, il se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de lui coller un adjectif. Ça ne sert à rien. C'est comme le verbe amour, par exemple. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime », ça suffit. Si on dit « je t'aime un peu » ou « je t'aime », même « je t'aime beaucoup », ça suffit pas. C'est pas « je t'aime », c'est bon. Et c'est pareil pour la laïcité. On est un État laïque, point. Pas de laïcité coercitive, pas de laïcité positive. Ça veut rien dire tout ça. Où on respecte la pensée, la religion des autres, mais on s'intègre dans une sphère collective et la religion s'exprime dans une sphère privée. Ça, c'est la laïcité. C'est l'exemple que donne la France. C'est pour ça qu'il y a eu 50 chefs d'État qui sont venus le 11 janvier en France. C'est pour ça. Donc on est le pays des Lumières, on est le pays de Voltaire, c'est vrai, Rousseau, et bon, il faut défendre ça, et maintenant on va pouvoir dire on est le pays de Charlie, vous rendez compte, grâce à un attentat terrible, ce journal est sauvé, Il y en a qui doivent rigoler là-haut, tiens.
Monsieur Rafat Boustany, d'après vous, actuellement, il y a un État islamique qui, d'après vous, il respecte la bonne interprétation du Coran, la bonne interprétation de la charia.
Vous me posez la question s'il y a un État islamique qui le respecte.
C'est d'après vous.
Non. Il n'y en a pas. Parce que l'islam, c'est, bon, comme toutes les religions, il faut le prendre en globalité. Il ne s'agit pas, je vous donne un exemple, encore une fois, de quotidien, il ne s'agit pas d'aller faire la prière et d'aller voler un magasin après la prière. Vous ne pouvez pas appliquer une partie des préceptes de l'islam et laisser l'autre partie, sous peine justement d'avoir une application incomplète de votre islam. La même chose, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau politique. Lorsque vous avez un État qui dit « moi, je suis un État islamique, j'applique le Coran », on ne peut pas ne pas appliquer les droits de l'homme, en fonction, puisque en plus, le Coran est basé sur les droits de l'homme. Les religions, par essence, sont des préceptes d'amélioration de la condition humaine. C'est par essence, ça. C'est l'esprit des religions. Donc, si vous appliquez une religion juste parce que vous voulez faire des mouvements de prière ou faire le jeûne de Ramadan, et par ailleurs vous appliquez mal les droits de l'homme, ce n'est pas de la vraie religion. Donc, il n'y a pas d'État actuel qui applique la religion islamique. Il n'y en a pas.
Ok, merci. Est-ce que, je me pose une question, est-ce que la religion, ça peut être représenté par un État à ce point-là?
Justement pas.
Non.
Non. La religion, c'est avant tout un concept personnel.
Oui.
Qu'on applique des lois, justement, c'est là où l'intérêt de la séparation entre l'Église et la religion en France, et je vous remercie pour votre intervention, mais rassurez-vous, j'étais au courant déjà de la loi de la laïcité. Il n'y a pas du tout d'application étatique dans un concept de religion. La religion, ça reste personnel, on le vit comme on veut, en groupe, peut-être, mais on n'a pas besoin qu'un État l'applique.
D'accord. Là, je m'adresse à M. Margis. Comment la communauté chrétienne a vécu cette attaque à Charlie Hebdo? Ils sont tellement, comment dire, éduqués dans le sens... Ils voient ça au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous faire du mal.
En tout cas, je crois que la grande majorité des chrétiens, en tout cas de ceux que moi je connais, n'ont certainement pas fait l'amalgame comme quoi ces horribles événements ont quelque chose à voir avec la religion au sens propre du terme. Par contre, effectivement, voilà, comment réfléchir, prendre de la hauteur, et puisque tu as évoqué Marco tout à l'heure, voilà, comment on peut faire ça au nom de Dieu? Là, j'aurais envie de rajouter deux choses. La première, c'est, voilà, ça veut dire quoi au nom de Dieu? Parce que tout est toujours dans l'interprétation. Alors pour moi, il y a une interprétation de base, c'est que le mot Dieu dans toutes les langues, ça veut dire tout simplement plus grand que moi. Il y a deux choses qui sont absolument universelles dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'être humain veut être heureux et il constate très très vite qu'il ne maîtrise pas grand chose. Donc puisqu'il ne maîtrise pas grand chose, ben, il doit y avoir plus grand que moi. Et c'est ce qui s'appelle au fond... basiquement Dieu. Alors du coup, effectivement, quand ces meurtriers ont dit au nom de Dieu, ben, c'est bien parce que quelque part, on veut s'arroger d'une certaine manière un pouvoir plus grand que soi. Pour la jeunesse hitlérienne, leur Dieu c'était Hitler et sa théorie. Donc, effectivement, tout est dans l'interprétation, la question est, s'il y a un Dieu, qui est-il et qui est-il pour moi?
Merci. Je pense que Jamel Nassar voudrait intervenir là-dessus.
Oui, je vais rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Hein. Bien sûr qu'on peut, On peut comprendre la légitimité des individus, des citoyens français, à aussi se questionner sur le sens de la vie sur Terre, l'existence, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort, etc. Ce sont des questions tout à fait légitimes et métaphysiques. Effectivement, la religion propose des réponses. Mais on peut paradoxalement ne pas avoir besoin de ces réponses ou trouver d'autres réponses. C'est-à-dire que ma pensée est la suivante. À un moment donné, lorsque je participe à un projet politique, en l'occurrence l'espace républicain, je dois m'interroger, je peux effectivement avoir un besoin de transcendance, mais ce besoin ne doit pas dépasser effectivement, la nécessité du vivre ensemble. C'est-à-dire la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai besoin en priorité de m'identifier comme catholique, comme protestant, comme juif, comme musulman, bouddhiste, etc. Est-ce que j'ai besoin d'exacerber en priorité cette appartenance religieuse? Et je crois que le problème, il est là. Et ce problème, nous devons aujourd'hui le gérer. Et la laïcité, je suis désolé de revenir dessus, est un moyen quand même extraordinaire, une exception française que pas mal de pays nous envient. C'est un outil qui permet justement de mettre à distance et de dire attention, appartenance, oui, mais elle est limitée. Elle est limitée. Alors, si vous permettez, je vais simplement dépasser, effectivement. La question aujourd'hui, c'est comment dépasser ces appartenances identitaires, parce que parfois elles sont exacerbées, parce qu'elles remplissent des vides, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sociologiques, professionnels, existentiels. Mais il faut toujours rappeler qu'il faut mettre à distance cette appartenance. Nous sommes d'abord des citoyens français avant d'être religieux, croyants, musulmans, catholiques, protestants, juifs, etc. Nous sommes d'abord des citoyens français. Je crois que c'est la priorité qu'il faut rappeler pour assurer ce vivre ensemble.
Merci Jamel. Notre débat va prendre bientôt fin. Je voudrais juste poser une toute dernière question que je pense que chacun se pose. C'est-à-dire, l'État islamique et la religion, quel est leur rapport?
Alors, aucun, encore une fois. L'État islamique est ni un État ni islamique. C'est pas moi qui l'ai dit, je suis absolument d'accord, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Affaires étrangères ou intérieures, je crois, britannique. Et c'est vraiment tout à fait à propos. Ce sont des gens, alors pour juste faire un petit rappel d'histoire, lorsque Bachar el-Assad, avec el-Maliki, qui était le chef de l'Irak à l'époque, ont vu qu'il va y avoir un printemps arabe chez eux, ils ont libéré des prisonniers de droit commun. Des prisonniers, ça veut dire des malfrats. Des prisons, ils les ont armés, ils ont dit maintenant vous allez tirer partout et faire du terrorisme. En même temps, Assad disait, on se rappelle très bien, il disait aux pays occidentaux, c'est soit moi, soit le terrorisme. Et si vous ne me suivez pas, vous aurez le terrorisme. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé. Donc c'est ni un État ni islamique. On ne peut pas se prévaloir de l'islam en tuant des gens et en violant des femmes. Soyons tout à fait clairs. Il ne faut pas non plus qu'on nous prenne pour n'importe qui.
Voilà. Merci beaucoup et j'étais ravi de partager cette 1h30, même plus, 1h30 avec vous. Je remercie Rafat Boustani, directeur de la mosquée de Manosque, Gilbert Margis, curé du pays de Manosque, Jamel Nassar, philosophe, Isabelle Coffé, représentante d'Amnesty International et notre directeur François Malabave. Merci à tous et à la prochaine émission d'Entract.
Merci Marco, à très bientôt.
Samuel, en seul vite on y pour faire.
Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits. Et demain, le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents. Et pas qu'un peu, le vin rouge et l'amour. Mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer. Et c'était toi, liberté. Qu'un drapeau droit devant eux, à jour sans son sont allés, mais ils n'ont pas fait quatre pas que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté, l'un joyeux, l'autre grave, liberté, liberté, liberté. Qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui t'ont cru sur parole? Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, femme, rêve des hommes, ils ne vivaient que par toi, ils ne parlaient que de toi, et c'est pour toi.